Seigneur, nous nous confions en toi encore ce matin afin que tu t'adresses à nos cœurs. Et Seigneur, que nous puissions ce matin comprendre des choses que peut-être nous n'avons jamais comprises jusqu'à présent. Pour la gloire de ton nom. Amen. Voilà. Je vais vous lire deux textes. Le premier est dans Ésaïe. Ésaïe qui était un prophète. Et un deuxième dans les évangiles. Ésaïe 60. C'est un texte qui parle de la délivrance d'Israël. Et aussi la prophétie concernant le repos, sans doute d'Israël, mais aussi de l'Église, en compagnie de son Messie. 60, verset 18, je prends juste une partie de ce passage, jusqu'au verset 20. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et je vais m'arrêter là. J'aimerais qu'on prenne un autre passage que je vais mettre en parallèle, donc dans les évangiles, dans Marc. Chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Plus de violence dans le pays, est-il dit dans Ésaïe. Plus de ravages, plus de ruines. Il y avait à l'époque une loi que Dieu avait donnée. C'était que quand il y avait un meurtre, une personne qui mourait par accident, le meurtrier pouvait aller se réfugier dans des villes-refuges. Il y avait 6 villes-refuges qui avaient été préparées pour ces personnes et qui étaient des villes qui appartenaient aux Lévites. Les Lévites étaient les religieux du peuple, ceux qui officiaient pour le peuple. Il y avait ces 6 villes et si le meurtrier pouvait rejoindre cette ville, il était impossible de le toucher, de le rattraper. Aujourd'hui, encore, existe ce principe de vendetta qui existait à l'époque, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un tuait quelqu'un et que ce n'était pas par accident, il y avait un homme qui était, qu'on appelait le vengeur du sang, qui partait à sa recherche et qui allait le tuer lui aussi. Et donc ces villes-refuges permettaient que lorsque c'était un accident, il y avait une possibilité de réchapper, jusqu'à ce que le souverain sacrificateur de l'endroit meure, et à ce moment-là, il était délivré définitivement. Aujourd'hui encore, la vendetta existe. On a certains pays comme l'Albanie ou le Kosovo. Lorsque il y a un meurtre dans une famille, eh bien le vengeur du sang est choisi dans la famille qui est concernée et il va passer le restant de sa vie, s'il le faut, à pourchasser le meurtrier pour le tuer à son tour. Et bien évidemment, une fois qu'il a tué, eh bien, à nouveau, dans l'autre famille, se lève un vengeur du sang qui, lui aussi, va pourchasser le meurtrier, et ainsi de suite. Et depuis des siècles, il y a ces vendettas qui existent. Et évidemment, c'est interdit par la loi, mais ce sont des lois qui sont plus fortes, qui sont resté depuis de très très nombreuses années. Ça existait en Israël, mais comme je vous l'ai dit, Dieu avait permis qu'il y ait un arrêt, que cela stoppe, que ce ne soit pas perpétuel. Et c'est ce que le prophète Ésaïe dit là. Plus de violence dans le pays. Plus de ravages et de ruines dans ton territoire. Lorsque celui qui est pourchassé, j'ai vu un reportage à la télé de cela, celui qui est pourchassé par le vengeur du sang aujourd'hui, il n'est en sécurité et encore que dans sa chambre. Rendez-vous compte, il sort à peine dans son jardin parce qu'il s'attend à chaque instant à être rattrapé par celui qui veut sa peau. La femme dont nous avons lu l'histoire était une femme qui vivait la souffrance, une souffrance angoissante, une souffrance, il y a des souffrances qui sont des violences, n'est-ce pas, pour l'homme. Cette femme vivait, mais est-ce qu'elle vivait vraiment? Elle survivait. Et en même temps qu'elle survivait, elle se voyait mourir parce qu'elle perdait son sang. Et vous savez que le sang, c'est la vie, n'est-ce pas? On apprend ça très jeune. C'est presque instinctif que de savoir. La vie de cette femme était en train de s'écouler d'elle. Elle se voyait mourir. Elle était ravagée, elle était ruinée. 12 ans. C'était pas du désespoir. C'était, je crois qu'il n'y a pas de mot pour le qualifier. Elle était à bout psychologiquement, elle était à bout physiquement. Et si elle tenait en vie, c'était sans doute parce que, à l'époque, se donner la mort était encore beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui, au niveau culturel. Mais on ne sait pas comment elle tenait, et elle-même était incapable de dire comment elle tenait. Tu donneras à tes murs le nom de salut. et à tes portes, celui de gloire. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de repos lorsque le vengeur du sang est derrière vous. Il n'y a pas d'endroit sur la terre où vous soyez en sécurité. Je viens de terminer un livre avec les enfants. C'est sur l'histoire des anabaptistes. C'était des chrétiens qui croyaient au XVIe siècle que le baptême des enfants n'était pas convenable. Et donc, ils sortaient de leur église d'origine et ils vivaient leur foi en Dieu et refusaient que leurs enfants soient baptisés. La conséquence de cela, c'est que du jour au lendemain, on leur retirait tout ce qu'ils avaient. Ils se retrouvaient avec leurs enfants et le peu d'habits qu'ils avaient sur eux, sur les routes, et ils n'avaient plus d'argent, plus de quoi vivre, plus de quoi se nourrir. Et en plus, ils étaient pourchassés par les milices religieuses, souvent payées par les églises pour les attraper et souvent pour les martyriser, les tuer. Et ces gens-là étaient sans rien. Ils avaient un salut pourtant. Ils avaient cette certitude que Jésus était au bout. Ils avaient cette certitude qu'ils n'étaient pas seuls. Et que finalement, dans leur souffrance, qui était réelle, qui était terrible, il y avait mieux. Il y avait beaucoup mieux que ce qu'ils venaient de perdre. Et tous s'attachaient à la vérité à laquelle ils croyaient. Ils étaient pourchassés par les églises catholiques et n'étaient pas du tout appréciés par les protestants non plus de l'époque. On retrouve encore de ces familles en Alsace, beaucoup. Ce sont des gens qui sont devenus ensuite des bénonites. On en retrouve beaucoup entre la ville de Colmar et la ville de Mulhouse, dans la vallée, là. Il y a de nombreuses familles qui habitent encore là. Pourchassés. Sans repos, sans mur pour nous protéger, sans protection aucune. Cette femme n'avait plus rien pour la protéger. Elle était sans doute malade, elle avait sans doute perdu toutes ses défenses immunitaires. Mais son corps même n'avait rien pour retenir le sang. Ça s'écoulait, il n'y avait rien à faire. Elle était complètement ouverte à tout ce qui pouvait arriver en maladie, de toutes sortes. Elle était malade, sans doute dépressive. Sans doute son mari était parti. Sans doute que plus personne ne voulait lui parler. Parce que on peut supporter 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais on ne supporte pas 12 ans une femme qui perd son sang et qui est malade. Et qui, en plus, n'a plus d'argent. Puisqu'elle avait rencontré tous les médecins qui, croyait-elle, pouvaient l'aider. Elle avait fait toutes les démarches qu'elle pouvait faire. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais il est dit que son état est allé en s'empirant. Est-ce que ça nous parle de nos propres vies? Est-ce que on a nous-mêmes essayé à peu près tout ce qui s'essaye sur la terre pour essayer de colmater les brèches. Parce qu'on sent qu'il s'écoule de nous quelque chose, que la vie est en train de partir, et on ne sait pas comment faire pour retenir cela. Est-ce qu'on a essayé la religion? Souvent, c'est l'endroit où on va se réfugier, la religion. Est-ce qu'on a essayé la sorcellerie? Est-ce qu'on a essayé la philosophie? Le sport? Le travail? En gagnant plus d'argent, on va pouvoir se payer les meilleurs médecins du monde. Il doit y avoir une solution quelque part, c'est juste que je ne l'ai pas trouvé encore. Il doit y avoir le médecin capable de me guérir, c'est juste que je ne l'ai pas encore croisé. Mais avec de la chance, je vais le croiser. Et ce jour-là, ça ira bien mieux. Mais 12 ans se sont écoulés. L'espoir est passé. Il n'y a plus de possibilité. Il n'y a même plus personne qui veut croiser cette femme. Est-ce que ça nous parle de nos vies? N'est-ce pas? On colmate comme on peut. On essaye de limiter les dégâts. De faire en sorte que ça passe quand même. On essaie de garder la tête hors de l'eau. Mais invariablement, la vie part, le sang coule, et je me vois mourir. Il dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Les médecins sont censés nous guérir, n'est-ce pas? Pas nous faire souffrir. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Lorsqu'on arrive au bout de soi-même, on ne sait plus ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Michael disait, au bout d'un moment, je sais pas. C'est ça, quand on est le dos au mur, eh bien on n'a plus rien. On n'a plus rien. Peut-être que c'est cela que le Seigneur attend. C'est de nous coller contre un mur. Pour qu'il puisse commencer à nous regarder dans les yeux. Pour qu'il puisse commencer à nous parler. Est-ce que vous savez que le Seigneur vous regarde dans les yeux lorsqu'il vous parle? Non mais tu divagues. Le Seigneur vous regarde dans les yeux lorsqu'il vous parle. Parce qu'il n'a pas honte de dire et de vous dire ce qu'il a à vous dire. Quand on dit à quelqu'un « je t'aime » et qu'on le regarde dans les yeux, en général, c'est vrai quand même. Mais c'est surtout vrai lorsque le Seigneur le fait. Certains m'ont connu avec 20 kilos de plus. Mais c'est pas que je me laissais aller. C'est que je ne trouvais pas la solution. Je ne trouvais pas ce qu'il fallait faire pour maigrir. Et un jour, j'ai trouvé. Et je l'ai fait, et ça a marché. Je ne peux pas le dire. Mais j'ai passé des années à chercher une solution. Essayer de trouver ce qui ne va pas. Et à un moment, j'ai trouvé la solution. Mais la véritable solution pour cette femme, c'était pas de chercher sans arrêt. C'était d'être là, au moment où Jésus passait. On a l'habitude de penser que Jésus répondait à toutes les sollicitations, et que quand quelqu'un avait besoin de lui, eh bien, il prenait sa valise et il allait le voir et disait « Jésus, j'ai besoin de toi, il faut que tu viennes me guérir. Ou il faut que tu viennes faire quelque chose dans ma vie pour que ça aille mieux et tout cela. » Et certains le faisaient et Jésus les recevait. Mais cette femme n'a pas fait ça. Parce que Jésus ne venait pas la voir. En fait, il s'intéressait même pas à elle. En fait, il ne l'avait même pas vue. Et j'ai trouvé ça fantastique de réaliser que c'était sur le chemin, alors que Jaïrus était en train de perdre sa fille et que lui avait fait appeler Jésus. Jésus passait là pour aller guérir, ressusciter la fille de Jaïrus. Et c'est dans ce laps de temps que cette femme est venue. Pas par devant. Elle s'est pas mise au travers de la route de Jésus, comme a fait, je ne sais plus qui a dit, « Fils de David, aie pitié de moi !» Lui, il s'était mis en travers de la route de Jésus. C'était Bartimée. Merci, José. Cette femme n'a pas fait ça. Elle s'est fondue dans la foule qui pressait Jésus. Elle a touché. Elle s'est écartée. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé. Jésus s'est retourné, il m'a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui? On appelle Jésus parfois, il ne vient pas. On l'appelle et il ne vient pas. Mais est-ce qu'on le saisit lorsqu'il passe? Parce qu'elle s'était dit, si seulement je pouvais toucher ses vêtements. C'était même pas lui qu'elle voulait. Il ne venait pas pour elle. Elle ne voulait pas toucher sa peau. Elle voulait juste toucher ses vêtements. Si je touche ses vêtements, je serai guéri. Cette femme a immédiatement reçu quelque chose de Jésus. Vous allez me dire, oh oui, elle a reçu la guérison. Elle a reçu beaucoup plus que ça. Qui a touché mes vêtements ? Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. C'est juste avant. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Je ne sais pas s'il y a d'autres récits de guérison qui expriment les choses de cette façon-là. Jésus a senti que quelqu'un s'était approché pour le toucher parce qu'une force était sortie de lui. Je crois que cette femme a reçu quelque chose qui était un peu comme les prémices du Saint-Esprit en elle. De Jésus, le Saint-Esprit est venu en elle pour la guérir, réellement. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Dans nos vies, on cherche beaucoup de lumière, n'est-ce pas? Le soleil nous éclaire le jour, la lune nous éclaire la nuit. Aujourd'hui, on a des ampoules pour avoir de la lumière. Mais l'ampoule toute seule, ça marche pas. Il faut de l'énergie dedans pour que ça fonctionne. Et une ampoule, ça claque. Et les énergies sont appelées à disparaître. Mais là, l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Frères et sœurs, je prie pour que pour chacun d'entre nous, il y arrive ce moment où on n'a plus besoin d'une ampoule. On n'a plus besoin d'un truc où on appuie dessus pour que ça nous donne de la lumière et que ça nous fasse du bien pour un peu de temps. Je prie pour que ce soit la gloire de Dieu lui-même qui resplendisse et qui nous donne la lumière même quand il fait nuit, même quand tout est sombre. Que ce soit l'Éternel qui soit votre lumière. Parce que vous avez compris que les médecins que vous avez cherchés jusqu'à présent n'ont pas pu accomplir l'œuvre que vous souhaitiez qu'ils fassent, qu'ils accomplissent. L'argent, le travail, la bonne volonté, les bonnes résolutions, toutes ces choses-là, vous avez vu que ça n'a pas fonctionné. Et je prie pour que vous puissiez capter le passage de Jésus. Peut-être il ne vient pas juste pour vous, mais il est là. Il traverse. Et touchez un peu de ses vêtements, avec en vous cette certitude que c'est lui le médecin. Eh bien, va vous amener au même résultat que cette femme. La perte de sang va s'arrêter. La perte de la vie. Et vous comprenez ce que je veux dire. Je ne parle pas de la vie que nous vivons ici-bas. Je parle de cette vie qui va s'écouler soit pour l'éternité dans un étang de feu, soit pour l'éternité avec Jésus-Christ. Si vous touchez le vêtement de Jésus ce jour, la force qui va sortir de Jésus ne va pas aller se perdre dans la nature quelque part. Elle va venir se loger en vous. Définitivement. Et opérer la guérison qui est nécessaire. parle pas d'une force cosmique, mystique, une chose. Je vous parle de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu qui vient dans l'homme pour régler tous les problèmes. Ça ne veut pas dire que la vie sera plus facile. Ça ne veut pas dire que tout va être beau et qu'il va s'arrêter de pleuvoir dehors. Ça veut dire que là où jusqu'à présent, vous ne vous en sortiez plus, eh bien le Seigneur va vous montrer la porte. Il va vous éloigner définitivement des dangers du vengeur du sang, parce qu'il y en a un qui est en train de vous courir après pour essayer de vous anéantir définitivement. Il va vous mettre à l'abri dans une de ces villes. Et là, il va vous parler. Et il va vous faire du bien. Il va vous mettre le dos au mur. Et il va vous regarder dans les yeux. Et il va vous administrer l'amour. Un amour que peut-être vous n'avez jamais encore rencontré, jamais connu. Je propose qu'on reste silencieux 2-3 minutes. Et que vous preniez là l'opportunité de capter le passage de Jésus. Seigneur Jésus, merci parce que même si tu ne viens pas spécifiquement pour nous, à l'instant, nous pouvons te voir te retourner pour savoir quelle est cette foi qui fait que une force sort de ton corps pour venir se loger en nous. Je prie que si ce message vous a touché, que vous soyez, que vous connaissiez le Seigneur ou que vous ne le connaissiez pas, si le Seigneur a parlé à votre cœur, que vous puissiez vous lever à l'intérieur de vous-même et toucher le vêtement de Jésus. Seigneur, je prie pour que Seigneur, tu te retournes sur le passage de ce Seigneur qui te touche maintenant. Seigneur, que tu puisses opérer le miracle tant attendu. Seigneur, que là où toutes les solutions ont été cherchées, Seigneur, tu puisses te révéler aujourd'hui comme étant la vraie solution. Le Seigneur vous aime les uns et les autres, et il veut faire que votre vie aujourd'hui soit changée, transformée. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la possibilité que nous avons, Seigneur, de venir à toi en toutes circonstances. Seigneur, je prie pour que tu bénisses chacun. Et Seigneur, que de nombreux, Seigneur, puissent partir, ayant reçu de toi une nouvelle connaissance. Et Seigneur, je prie pour que l'Esprit de Dieu vienne se déverser en puissance.